Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, je voudrais continuer sur la lancée d'il y a déjà plusieurs dimanches, en parlant de la Vierge Marie, et particulièrement ce matin sur la demande qu'a faite Notre-Dame le 10 décembre 1925, donc il y a juste 100 ans, à quelques jours près, de communier en réparation pour les offenses qui sont faites contre elle, contre son cœur immaculé. Il y a 5 offenses en particulier qui outragent Notre-Dame. Et elle a demandé à sœur Lucie, elle était à l'époque religieuse, sœur Lucie, jeune religieuse, de réparer les offenses faites contre elle en communiant. En communiant, communion réparatrice. Et déjà on voit l'union intime entre Notre-Dame et notre Seigneur Jésus-Christ. On communie pour réparer les outrages, les offenses faites contre Notre-Dame. Donc ce sont deux cœurs qui s'unissent pour réparer les péchés des hommes. Déjà, le 13 juillet 1917, donc 8 ans auparavant, Notre-Dame, dans donc, la troisième apparition, avait dit aux enfants: pour empêcher la guerre, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Donc vous voyez, c'est bien anticipé. 8 ans plus tard, elle précise, mais déjà dans ces 6 apparitions, au cœur des apparitions, donc au centre des apparitions, Notre-Dame dit bien qu'elle veut que nous, fidèles, communions pour demander la consécration de la Russie, qui n'est toujours pas faite, on en a déjà parlé, et puis réparer pour les outrages. Le 10 décembre 25, Notre-Dame, sœur Lucie, est religieuse chez les sœurs Dorothée à Pontevedra en Espagne. Et Notre-Dame lui dit: regarde ma fille, mon cœur entouré d'épines que les hommes ingrats à tout moment lui enfoncent par des blasphèmes et des ingratitudes. Toi du moins, cherche à me consoler et dis que je promets d'assister à l'heure de la mort avec toutes les grâces nécessaires au salut, tous ceux qui, le premier samedi du mois, de suite, se confesseront, communieront et réciteront le chapelet en me tiendront compagnie durant 15 minutes en méditant les 15 mystères du rosaire avec l'intention de me faire réparation. Donc la réparation est bien présente. Il y a donc plusieurs choses. 5 samedis du mois, de suite, la confession, la communion, le rosaire, le chapelet, et aussi 15 minutes de méditation. Donc ce n'est pas le chapelet proprement dit. C'est important de le préciser parce que parfois, des fidèles disent « Bon, j'ai dit mon chapelet, donc j'ai tenu compagnie Notre-Dame. » Ce qui est vrai, bien évidemment, mais s'arrêter 15 minutes sur un mystère du rosaire pour en méditer pour en tirer toute la moelle, on peut dire, toutes les vertus du chapelet avec les fruits qui découlent de ces mystères du chapelet. Le 15 février 26, donc un mois plus tard, 2 mois plus tard, l'enfant Jésus apparaît à sœur Lucie. Ce n'est plus la Sainte Vierge, c'est l'enfant Jésus. Celle-ci lui expose la difficulté que plusieurs âmes ont de se confesser le samedi et demande que la confession, dans les 8 jours, soit valide. Et Jésus lui répond. On voit la condescendance du cœur de Jésus, la délicatesse, les facilités que donne le bon Dieu pour ceux qui ne peuvent pas légitimement assister à la messe le samedi et se confesser et communier. Oui, répond-il. Elle peut remonter à beaucoup plus de jours encore, pourvu que, en me recevant, on soit en état de grâce et qu'on veuille réparer les offenses faites au cœur immaculé de Marie. Donc Jésus facilite énormément l'accès à la confession et la communion. Vous voyez, le bon Dieu est extrêmement bienveillant, plein de miséricorde pour les âmes qui veulent se rapprocher de lui par Notre-Dame. Et là, on voit bien sûr encore en filigrane cette médiation de la Vierge Marie. Alors, Lucie en parle à sa supérieure, puis se confesse au prêtre. Et celui-ci lui demande de tout écrire, garder le manuscrit, qui, hélas, a été brûlé l'année suivante, en 1927. Donc, on n'a pas le manuscrit original, mais en tout cas, on a le témoignage de Lucie, sa supérieure et le prêtre. Donc, trois témoignages, très importants. Alors, de quoi s'agit-il pour ces samedis du mois, pour la réparation et les réparations faites aux offenses contre le cœur de Marie? Tout d'abord, les blasphèmes, vous voyez, ce n'est pas des petits péchés, si petits péchés il existerait. Ce ne sont pas des péchés véniels, mais des péchés graves. Blasphèmes contre l'Immaculée Conception. Ce privilège que nous avons pu honorer, vénérer lundi dernier, le 8 décembre. Nous allons revenir plus tard sur, dans quelques minutes, sur l'Immaculée Conception avec de très beaux textes. Blasphème contre la virginité de Marie. Notre-Dame est vierge. Pendant, avant, pendant et après l'enfantement de notre Seigneur Jésus-Christ. Privilège inouï, donc non entendu, inouï. C'est unique dans l'histoire de l'humanité qu'une vierge soit mère. Et Notre-Dame réalise cette exception, car elle est demeurée toujours vierge. Et donc certains blasphèment contre la virginité de Marie, en particulier les protestants, qui disent « Mais non, Notre-Dame a plusieurs enfants. » A plusieurs enfants. Non, un seul enfant. Par nature, notre Seigneur Jésus-Christ, et bien sûr, nous par adoption. Comme dira Notre-Dame à Sainte Brigitte, me semble-t-il, ou Sainte Gertrude, pardon, Sainte Gertrude, Notre-Dame dit à Sainte Gertrude, notre Seigneur dit à Sainte Gertrude, je suis le premier-né de Notre-Dame. Ça veut dire qu'elle a d'autres enfants. Mais nous sommes les enfants, par la suite, enfants spirituels de la Vierge Marie, par notre adoption divine, filiale, avec le baptême. Nous sommes des greffons, comme un rosier sauvage qui a des greffes. Nous sommes greffés à notre Seigneur Jésus-Christ par le baptême. Quelle joie, quelle dignité l'homme n'a-t-il pas en devenant enfant de Dieu par adoption. Et comme le dit bien saint Paul, comme nous sommes enfants de Dieu et de Notre-Dame, nous avons droit à un héritage. Un héritage, cet héritage, ce n'est pas sur terre, mais c'est dans le ciel. Héritage céleste, héritage divin, la béatitude pour toujours. Notre-Dame nous enfante avec notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, quand notre Seigneur a donné à saint Jean Notre-Dame et réciproquement. « Fils, voici ta mère. Mère, voilà votre fils. » Et dès cet instant, le disciple l'a pris chez lui. Et saint Jean nous représente tous au pied de la croix. Et nous devenons par là, en puissance, dans le futur, enfants de Notre-Dame. Donc elle a un enfant, par nature, notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mais par grâce, tous ceux qui seront baptisés jusqu'à la fin des temps. Donc blasphème contre cette virginité de Notre-Dame. Blasphème aussi contre sa maternité divine, avec en même temps le refus de la reconnaître comme mère des hommes. Et là, on voit bien très nettement affirmer sa médiation. Elle est mère de Dieu, mère des hommes. Elle est médiatrice de toutes les grâces. Ce privilège qui, hélas de nos jours, là je ne vous apprends plus rien, est bien nié par les autorités romaines. Quatrième blasphème, ceux qui cherchent à semer dans le cœur des enfants l'indifférence, le mépris, même la haine de cette mère immaculée. Là, on touche le cœur des enfants. Et il faut réparer. Un enfant, par nature, est malléable, fragile, vulnérable. Encore un adulte est formé, parfois, pas toujours. Mais un enfant, son cœur, son intelligence, sa volonté, sont des éléments excessivement fragiles. Eh bien, certains veulent semer dans le cœur l'indifférence. Vous voyez, on sème ce mauvais grain. Le semeur qui, de nuit, dit Jésus dans l'Évangile, dans la parabole du semeur, est venu semer l'ivraie, alors qu'on ne s'y attendait pas. on dormait, donc on n'était pas vigilant. D'où la nécessité pour les parents d'être vigilants par rapport à leurs enfants, pour qu'il n'y ait pas d'indifférence, de mépris, de haine contre Notre-Dame. Et l'amour de la Vierge Marie s'apprend dès le berceau. Apprendre à nos enfants à réciter le chapelet. Même si l'enfant va zozoter, peu importe. Comme les enfants de Pontmain, qui, le 17 janvier 1871, ces enfants tout jeunes, et même certains qui savaient à peine parler, quand ils voient la belle dame dans le firmament, dans cette nuit étoilée, il faisait très froid, le 8 janvier 71, en pleine guerre franco-prusse, eh bien, un enfant dira « Le Jésus, le Jésus ». C'était la Sainte Vierge. Peu importe, l'enfant, il ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir, c'est de bonne foi. Il a ses yeux et il dit « Le Jésus, le Jésus ». Tout le monde a compris, c'était le Jésus, mais c'était Notre-Dame, voyez. Eh bien, cet enfant, pourquoi a-t-il pu dire ce mot? Parce qu'il le connaissait. Il le connaissait. Parce que ses parents, ses bons parents, lui avaient appris, devant la croix, devant les statues de la Sainte Vierge et tant d'autres statues, à dire le Jésus. Et peu importe qui c'était cette statue, c'était notre Seigneur Jésus-Christ, voyez-vous. Donc cette foi est enracinée dès le berceau, le bon grain. Ensuite, la foi apprendra à dire vraiment Jésus et à différencier Jésus de Notre-Dame. Mais si l'enfant n'avait pas eu de bons parents qui lui avaient inculqué dès le départ, par amour pour le bon Dieu, l'amour des statues pour notre Seigneur Jésus-Christ, la statue représente, elle n'est pas Jésus-Christ, mais elle représente notre Seigneur Jésus-Christ et la Sainte Vierge, l'enfant n'aurait jamais dit le Jésus. Donc il n'y a pas eu de mauvaise semence, au contraire. Il n'y a pas d'indifférence, il n'y a pas de mépris, au contraire. Un amour profond pour notre Seigneur et Notre-Dame. Un temps de chrétienté à Pontmain, ce petit village aux marches de la Bretagne. C'est la Mayenne, mais tout près de la Bretagne. Et enfin, offense de ceux qui l'outragent directement dans ces saintes images. Et là, on voit aussi les protestants qui sont iconoclastes. Les protestants n'aiment pas les images de la Sainte Vierge, de notre Seigneur Jésus-Christ, des saints, etc. On retire tout. Et on voit, depuis le Concile Vatican II, combien de statues, d'images ont été retirées de nos églises, parfois cassées, brisées, brûlées. Brûlées. La Révolution française avait déjà fait ça. Ici, à Montaigu, en face, dans l'église, on vénère ce crucifix. Qui a été brûlé, crucifié de l'Église, qui a été brûlé sur la place de l'Église, entre ici et l'Église, donc sur cette place, et entre deux gardes, un villageois va prendre ce crucifix, ce beau crucifix, il n'y a plus de bras, plus de jambes, et comme il y a comme des coups de couteau, des coups de sabre dans ce bois brûlé, et ce crucifix a été caché pendant presque 2 siècles, et en 1937, eh bien, la famille a restitué ce beau crucifix dans l'église. On peut le vénérer. C'est une très bonne nouvelle. Et puis, juste derrière, ce beau crucifix. Donc, vous voyez, la Révolution, les protestants, les modernistes sont des iconoclastes. Ils ne veulent plus qu'on vénère ces belles statues qui représentent le bon Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ et la Sainte Vierge. Je vous disais que je vous lirai un texte sur l'Immaculée Conception que nous venons de fêter. Il faut avoir une grande vénération, une grande dévotion envers l'Immaculée Conception. Ce texte est de Don Marmion, dans le Christ vie de l'âme. La Vierge est immaculée. Tous les enfants d'Adam naissent souillés de la tâche originelle, esclaves du démon, ennemis de Dieu. Comme dit saint Paul, on est fils de la colère par le péché originel. Et le baptême nous donne accès à la filiation divine, fils de Dieu. Quelle merveille! C'est la loi portée par Dieu pour toute la race d'Adam pécheur. Seule entre toutes les créatures, Marie échappera à cette loi. À cette loi universelle, le Verbe éternel fera une exception, une seule, pour celle en laquelle il doit s'incarner. Pas un seul instant, l'âme de Marie n'appartiendra au démon. Elle sera rayonnante de pureté. Et c'est pourquoi, dès le lendemain de la chute de nos premiers parents, Dieu a établi une inimitié absolue entre le démon et la Vierge choisie. C'est elle qui, de son talon, doit écraser le serpent infernal. Avec l'Église, rappelons souvent à Marie ce privilège qu'elle est seule à posséder d'être sans tache. Et moi à lui de redire « Tota pulchra est Maria et macula originalis nascente ». Vous êtes toute pure, ô Marie, toute belle, et la tache originelle n'est pas en vous. Votre vêtement est blanc comme la neige et votre face resplendissante à l'éclat du soleil. C'est pourquoi le roi de gloire vous a si ardemment désiré. C'est une antienne que je viens de citer, des l'aude de Noël. C'est quand même merveilleux. Le démon est écrasé par notre Seigneur Jésus-Christ, bien évidemment. Il est le Sauveur. Et il est aussi écrasé, non pas par un homme quelconque ou une femme quelconque, mais par la femme. Quelle humiliation pour le dragon maudit d'être écrasé par la femme. Et non pas par la tête de la femme, mais par le talon de la femme. Quelle humiliation. La tête représente l'intelligence. Lucifer, c'est l'ange de l'intelligence, brillant. Eh bien, il est écrasé par un pied. Quelle avanie pour lui, quelle humiliation. Le pied, qu'est-ce que c'est que le pied? Le corps repose sur le pied. C'est vil, un pied. C'est vil. La tête n'est pas vile dans le corps humain, mais par rapport au corps humain, le pied, c'est pas grand-chose. Eh bien, elle l'écrase par son pied, par son talon. Par son talon. Quelle humiliation, c'est magnifique. La réponse du bon Dieu à l'orgueil, la tête, c'est un pied. Et un pied virginal. Elle t'écrasera la tête. Et toi, tu chercheras à la mordre au talon. Quelque temps plus tard, donc 5 offenses contre Notre-Dame. Quelque temps plus tard, le 1er novembre 27, Sœur Lucie écrit à sa marraine « Je ne sais pas si vous connaissez déjà la dévotion des réparations des 5 samedis du mois au cœur de Marie. Comme elle est encore récente, j'aimerais vous inspirer de faire cette pratique parce qu'elle s'est demandée par Notre-Dame, notre chère Mère divine, et Jésus a manifesté un désir qu'elle soit pratiquée. En plus, il me semble que vous serez fortunée, chère marraine, pas seulement de la connaître et de donner à Jésus la consolation de la pratiquer, mais encore à la faire connaître et enlacer par beaucoup d'autres personnes. » Donc il y a un apostolat. On ne garde pas pour soi-même cette dévotion, mais on la répand, on la fait connaître. Donc c'est le but que j'ai ce matin. Elle continue. Elle consiste en cela. Pendant 5 mois, au premier samedi, recevoir Jésus dans la communion, réciter un rosaire, garder compagnie avec Notre-Dame pendant 15 minutes, méditant sur les mystères du rosaire et faire une bonne confession. La confession peut être faite quelques jours auparavant, et si, dans cette confession précédente, vous avez oublié l'intention requise, l'intention suivante peut être offerte, pourvu qu'au premier samedi, l'on reçoit la communion sacrée dans un état de grâce, avec l'intention de réparer les offenses contre la Vierge la plus sacrée et qui afflige son cœur immaculé. Il me semble, ma chère marraine, que nous sommes fortunés d'être capables de donner à notre chère Mère divine cette preuve d'amour, parce que nous savons qu'elle la désire. Quant à moi, j'avoue que je ne suis jamais si heureuse qu'à l'arrivée du premier samedi. N'est-il pas vrai que notre bonheur le plus grand, c'est d'appartenir entièrement à Jésus et à Marie, et de les aimer uniquement, sans réserve? Nous voyons cela si clairement dans les vies des saints. Ils étaient heureux parce qu'ils aimaient. Et nous, ma chère marraine, nous devons chercher d'aimer comme eux. Pas simplement de sentir de la joie en pensant à Jésus, ce qui est le moins important. Je distingue entre la foi et le sentiment. Le sentiment passe. Nos sentiments sont fluctuants. Notre foi est stable. Très important dans la vie spirituelle. Parce que, continue-t-elle et finit-elle, parce que si nous ne l'aimons pas ici-bas, nous l'aimerons en haut au ciel. Donc il faut aimer Notre-Dame ici-bas, la terre étant un prélude du ciel, une antichambre, une salle d'attente. Donc il faut s'y préparer. Mais de donner à Jésus et à Marie la consolation pour être aimé, et que dans cet échange d'amour, il pourrait sauver beaucoup d'âmes. Voilà, le but de Notre-Dame, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est sauver les âmes. L'unique but du bon Dieu pour nous ici-bas, c'est de nous racheter, de nous sauver et nous donner les moyens pour y arriver. Et les moyens sont faciles. Si on demande à quelqu'un de décrocher la Lune, il ne va pas y arriver. La Lune est trop éloignée. Mais des choses faciles. Des choses faciles. Dernière histoire, puisque vous êtes bien patient et vous êtes attentif. Sur une image du baptême, quelque chose de facile. Dans l'Ancien Testament, il y avait un brave homme qui s'appelait Naaman le Syrien. Ce pauvre homme avait la lèpre, de la tête aux pieds. Il était désolé parce qu'il avait la lèpre. Et le prophète lui dit, « Va te laver dans le Jourdain. » Et Naaman lui dit, « Mais tu te moques de moi. Le Jourdain, c'est un fleuve minable en Palestine. » Et le prophète lui répond, « Si je t'avais dit de te laver dans un fleuve renommé, l'Euphrate, le Nil, alors tu serais allé. Et pourtant, tu aurais fait des kilomètres. Tu serais parti à chameau et tu aurais bien sué. Tu aurais fait des kilomètres et des kilomètres. Là, le Jourdain, c'est à côté de toi. Mais tu méprises le Jourdain parce que c'est nul. C'est un fleuve minable en Palestine. » Et ce brave homme était vraiment fâché. Il dit, non, c'est pas possible cela. Et alors, il y a une jeune femme qui lui dit, écoute, le prophète, tu aurais été capable de faire des choses incroyables pour ta santé. Il te demande quelque chose de simple. Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Et tu auras la peau comme celle d'un bébé. C'est quand même pas mal. Alors, il a été avisé, il a été prudent, il a été obéissant. Et il l'a fait. Et 7 fois de suite, il s'est lavé et sa lèpre est tombée. Il a retrouvé sa jeunesse et sa beauté. Ça, c'est un symbole. Le Jourdain, notre Seigneur Jésus-Christ a été baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste. On le voit dans les dimanches de l'Avent avec les évangiles dont je n'ai pas parlé, mais ils sont bien présents. Notre Seigneur Jésus-Christ a voulu être baptisé dans le Jourdain. Non pas qu'il ait eu besoin d'être baptisé, mais il donne l'exemple. Et pourquoi cette fois? Parce que cette fois, le chiffre 7 correspond au don du Saint-Esprit, aux 7 sacrements, etc. Le chiffre 7 est un chiffre sacré. Et il l'a fait. Il l'a fait. Et qu'est-ce que le baptême? Sinon quelque chose d'excessivement simple. Excessivement simple. Une dernière histoire. Ce n'est plus avant Jésus-Christ, mais c'est après Jésus-Christ. C'est le diacre Philippe, donc c'est quelques années après la Pentecôte, 2 ans, 3 ans maximum, et le diacre Philippe est dans une ville, et l'ange lui dit, va sur la route qui mène de Jérusalem à Gaza. Car Gaza, c'est connu de nos jours, n'est-ce pas? Ça vous dit quelque chose. Et Philippe va sur cette route, et l'ange lui dit, cette route est déserte. Ça, c'est déconcertant quand même. Va sur cette route déserte. Et voilà que quelqu'un passe à ce moment-là. C'était un serviteur de la reine de Candace. De Candace, qui était, je crois, d'Égypte. Donc, il passait par là, sur son char. Et donc, Philippe est pris par le serviteur. Donc, vous voyez, c'est l'origine du stop. Il monte sur le char du serviteur. Et que faisait ce serviteur? Il lisait un livre. Vous voyez, il était studieux. Et que lisait-il? Un passage de Isaïe, au chapitre 49. Et il lit le livre, et il ne sait pas de quoi il s'agit. Alors, il dit à Philippe, toi, tu connais ce livre? Effectivement, Philippe connaissait ce livre. C'est Isaïe qui parle de Jésus qui va souffrir. Le serviteur dit, il parle de lui-même ou d'un autre? Mais non, il parle de Jésus. Et Philippe fait du catéchisme. Pendant un bon bout de temps. Notre Seigneur Jésus-Christ, son baptême, les miracles, sa mort, sa résurrection et les sacrements. Et voilà que, à un moment donné, il y a une petite mare avec de l'eau. C'est pas sec, il y a de l'eau. Et le serviteur lui dit, mais avec tout ce que tu me dis, il y a de l'eau. Mais moi, pour le baptême, il faut de l'eau. Il y a de l'eau, et pourquoi pas le baptême pour moi ? Et Philippe s'arrête et lui dit, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, qui est annoncé par Isaïe ? Oui, je crois. Il arrête le char et les chevaux, etc. Et il va baptiser dans cette mare. Et ensuite, Philippe disparaît. Et le baptisé, le néophyte, est tout heureux. Il est tout heureux. Et il est baptisé. La providence. L'ange lui a dit, va sur cette route déserte, parce qu'il y a quelqu'un qui t'attend. La providence. Il évangélise, il baptise et repart. Il faut la foi pour être baptisé. Et après ça, il faut de l'eau. Notre Seigneur Jésus-Christ est infiniment bon. Il donne tout ce dont on a besoin pour arriver à lui. Et les moyens sont simples. Du catéchisme, bien sûr, de la foi. Et Notre-Dame, qui est la mère des âmes, elle nous adopte en même temps que son divin Fils. Demandons à Notre-Dame de l'aimer, de la connaître et de mieux l'aimer en faisant réparation pour toutes ces offenses qui sont contre elle. Et donnons à nos enfants l'amour dès le berceau du Jésus, de Notre-Dame, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.